Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Florent Nouguez est né à Lyon. Lorsqu'il se souvient des projets qu'il avait à 8 ans, c'est le joueur de foot professionnel, peut-être à l'Olympique Lyonnais, qui revient à sa mémoire. Il est finalement devenu professeur des écoles en 2002, pour notre plus grand plaisir. Je dis pour notre plus grand plaisir car Florent est l'auteur du formidable site classedeflorent.fr. Mais il a bien d'autres cordes à son arc. Il est également maître formateur dans l'Essonne et il enseigne à Grigny en REP+. Il a passé la certification KPASH pour devenir enseignant spécialisé auprès d'élèves en situation de handicap moteur. Florent a aussi exercé les fonctions d'ERUN pendant 3 ans pour finalement revenir en maternelle en parallèle de ses missions de formateur. Classedeflorent.fr existe depuis 2014 et c'est la problématique de la différenciation auprès des élèves porteurs de handicap qui en a été le déclencheur. Son parcours est très éclectique et j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur la manière avec laquelle il a fait évoluer ses pratiques pédagogiques. Florent Nouguez, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce vraiment à l'Olympique Lyonnais que vous rêviez de devenir joueur de foot professionnel?
Quand j'étais enfant, c'était plutôt l'Olympique de Marseille à l'époque.
Ah, d'accord. Alors, voilà. Moi qui suis niçois, ça va poser un problème.
Ah, hein. Ah oui, il y a eu des petits soucis, oui, récemment.
Quel regard portez-vous sur votre enfance, Florent?
Mon enfance, c'était une enfance assez classique, heureuse dans son ensemble. J'étais bien entouré par ma famille, avec des copains, une amoureuse jusqu'à son déménagement en CE1. Et quand on parle d'enfance, c'est amusant parce que j'ai ensuite rencontré ma femme 2 ans plus tard sur cette période où on était enfant. Alors, on n'était pas ensemble à l'époque, ni même on n'était pas particulièrement amis. Mais voilà, ça montre finalement j'ai toujours des attaches puissantes à mon enfance, que ce soit bien sûr avec ma femme. Le fait, alors, je suis né à Lyon, mais j'ai vécu très peu de temps à Lyon. On est vite monté en Essonne. Et en fait, j'ai presque jamais quitté l'Essonne depuis. Et donc, de temps en temps, je peux voir l'immeuble où j'ai grandi petit ou la maison où j'ai vécu. Je peux encore passer devant l'école, mon ancienne école maternelle, élémentaire, mon ancien collège. Donc, voilà, je suis entouré d'éléments de mon enfance toujours. Alors, on dit qu'il y a toujours un petit enfant en nous et je pense qu'il y a vraiment cette continuité et peut-être même un effet d'accumulation. Il y a à la fois le petit enfant, mais aussi l'ado, le jeune adulte. Voilà, donc une enfance toujours présente finalement.
Prof, etc.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève?
En tant qu'élève, pour parler de foot, il y avait cette fameuse victoire de mon école en CM2 au tir au but face à l'école, l'autre école du village. Sinon, de façon plus classique, j'avais de la chance à une classe verte, une classe de neige en CM1 et en CM2, non, en CM1, je crois. Et voilà, c'est des souvenirs vraiment marquants. Et après, quand on est de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que c'est vraiment difficile à organiser. Un chapeau aux enseignants de l'époque, qui m'ont permis de vivre ça, en tout cas.
Alors, plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent?
Adolescent, j'ai eu plusieurs facettes, je pense. J'étais plutôt discret au collège et plus affirmé au lycée. C'est la musique qui marque mon adolescence. J'ai pratiqué du piano à un niveau très modeste. J'ai aussi beaucoup écouté de la musique, différents styles. Il y avait le classique en particulier avec Bach. Il y a un morceau qui m'a bercé, c'est la chaconne en ré mineur de Bach, interprétée à la guitare par Segovia, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'accompagne toujours. Où finalement, c'est un morceau avec une base thématique, enfin une base avec des accords de base qui reviennent sans cesse, mais qui sonnent de différentes manières, qui s'enrichissent au fur et à mesure. Et voilà. Après, j'écoutais plus, enfin aussi d'autres styles comme, je sais pas, les Beatles, les Pink Floyd, de façon plus classique. Toujours pour la musique, j'avais monté un groupe quand j'étais en seconde avec des copains. On avait pu monter sur scène pour la fête de la musique. Pour nous, c'était formidable à l'époque. Voilà, c'était aussi les années théâtre. Et puis, bah, j'avais commencé déjà à coder, enfin à coder, à programmer en basique et puis en quick basique, hein, quand j'étais plutôt au collège. Bah, je reprenais des lignes de code. Bah, c'est un petit peu comme la personne que vous avez interviewée avant, Benjamin Arsac, quand il
Oui.
racontait qu'il recopiait des lignes de code. Bah, c'était ça en fait, hein.
Oui.
D'abord, on recopie des lignes de code, puis on s'amuse à les modifier, on voit ce qui se passe, et puis bah, petit à petit, on comprend. Tel mot, ça, c'est une fonction qui a tel rôle dans le programme. Et puis, ce qui est amusant par rapport à mon site actuel, c'est que j'ai fait mon premier programme à visée éducative quand j'étais au lycée, pour moi-même. Il y avait pas, enfin, il y avait Internet à l'époque, mais c'était vraiment très peu développé. En fait, je me suis pris une note catastrophique en allemand, en terminale. On était à l'approche du bac, j'avais peut-être 4 sur 20, c'était une catastrophe pour moi. Fallait absolument que je fasse quelque chose. Et puis, bah, je me suis construit mon premier exerciceur pour connaître sur le bout des doigts, bah, les déclinaisons des verbes ou des listes de vocabulaire. J'ai vraiment passé des heures. Alors, la programmation de mes. Enfin, ça remonte à très longtemps, mais j'ai passé des heures à ensuite m'exercer. Et puis, bah, finalement, j'en suis très bien sorti au bac en allemand. Alors, après, faut être honnête, en anglais, c'était moins concluant. J'ai fait la même chose en anglais. Et, alors, autant en allemand, j'ai fini à 16, mais en anglais, c'était 12. Bon. Comme quoi, le par cœur, c'est important, mais c'est pas toujours suffisant. Voilà.
Quand vous évoquez tout ça, on sent que peut-être il y a déjà eu là une influence sur le choix du métier de prof et de formateur que vous exercez aujourd'hui, non?
Comment dire? C'est peut-être plutôt mes passions de l'époque qui influencent sur le professeur que je suis actuellement, où je crois à l'importance de la musique, toujours, enfin, en part, enfin, là, je suis en maternelle, mais. Si on peut faire 30 minutes de musique par jour, bah c'est, je trouve ça parfait. J'en suis pas toujours là. Bah, la programmation, bah, comme vous l'avez souligné, il y a mon site éducatif. En fait, oui, il y a des éléments qui remontent à l'adolescence, bah, qui sont toujours présents dans ma vie d'adulte et en tant que professeur.
Vous êtes devenu enseignant en 2002.
C'est ça.
Ce choix s'est imposé, oui, c'est ça, hein. Et ce choix s'est imposé à partir de quel moment dans votre parcours lycéen ou étudiant?
C'est plutôt en tant qu'étudiant. En fait, je participais à une association qui s'appelle Les Petits Frères des Pauvres. Et on était un groupe de jeunes dans cette association. À l'époque, je suis rentré dans cette association à 17 ans. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai sympathisé avec un enseignant du primaire qui préparait son CAFIPEMF. J'ai vu la personne passionnée qui, bah, et ça m'a attiré vers le métier. Donc, et ce qui est bien, c'est que j'ai gardé vraiment contact avec cette personne. Bon, à la fois pour passer le concours, mais aussi, bah, quand moi-même j'ai passé le CAFIPEMF, bah, j'ai demandé à ce qu'il soit mon tuteur. Et ça s'est bien fini. Voilà.
Vous dites être venu au numérique dans le souci de mieux différencier. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez pris conscience de ça?
Oui, alors dans mon parcours, c'est vrai que j'ai eu plusieurs phases. J'ai commencé en maternelle pendant un an, mais surtout, j'ai tout de suite après, j'ai passé 10 ans dans l'enseignement spécialisé auprès d'enfants et d'adolescents, de jeunes adultes en situation de handicap moteur. Donc, on avait un certain nombre d'ordinateurs et bah, ces enfants, ces adolescents, ces jeunes adultes, ils avaient parfois des niveaux extrêmement différents. Ça allait en gros d'un niveau toute petite section à un niveau SECPA. Je vais prendre un exemple, hein, en mathématiques. On peut travailler les additions, mais d'un niveau maternel jusqu'à un niveau Il y a le collègue de la semaine dernière, de la dernière fois, j'ai oublié son nom, Benjamin Arsa, qui
Benjamin,
fait du
oui.
calcul mental au collège. En fait, en partant d'une même thématique, on peut proposer des exercices différents aux élèves en fonction de leur niveau. Voilà, c'était mon fil conducteur quand j'étais dans l'enseignement spécialisé.
Comment êtes-vous passé de l'idée du site à sa réalisation?
Alors, c'est pas créé en un claquement de doigts. En fait, lorsque j'ai débuté, alors même si j'étais passionné d'informatique quand j'étais adolescent, j'ai eu une longue coupure où, pour moi, l'ordinateur, c'était un simple objet de consommation. J'ai pris conscience de l'importance de l'outil informatique, en tout cas pour ces élèves, lorsque je suis arrivé dans cet établissement spécialisé. Et petit à petit, c'est plutôt mes collègues qui m'ont appris à faire des choses. À l'époque, on avait Word, un traitement de texte, où on apprenait à geler une certaine partie du texte pour laisser des parties ouvertes pour les élèves, pour qu'ils puissent apporter leurs réponses dans le texte. J'ai appris petit à petit avec un tableur à faire des calculs aléatoires. En fait, dans un tableur, on peut tirer au sort un nombre entre, par exemple, entre 0 et 10, c'est nous qui décidons. On décide si c'est une addition, une multiplication. Dans une cellule cachée, on peut mettre le résultat et comparer avec la réponse de l'élève. Bon, là, c'est vraiment du bricolage. Ensuite, j'ai découvert Didapage. Je ne sais pas si vous connaissez,
Oui,
si vous avez connu.
bien sûr, oui.
D'accord, c'est un livre numérique qui permettait à l'époque de faire des choses vraiment interactives déjà et que je trouvais formidable. Et voilà, et de fil en aiguille, j'en suis venu à. Un jour, j'ai une formation WordPress. Bon, c'est vraiment orienté blog, mais à un moment, le formateur, il a vaguement évoqué le JavaScript, et là, ça fait tilt dans ma tête par rapport à tout ce que je faisais déjà en classe. Et ben oui, et si je montais un site pour mes élèves? Alors, voilà, j'ai commencé par du calcul mental. J'avais fait à l'époque aussi de la conjugaison. Les choses les plus simples, entre guillemets, que je pouvais proposer, j'étais très fier d'avoir déjà ma première page internet avec du calcul mental. Voilà, j'étais content de pouvoir le tester avec mes élèves déjà.
Prof, etc.
Votre site classe de florent.fr couvre les 3 cycles de l'école primaire. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez prévu dès le départ?
Bonne question. Lorsque j'étais dans l'établissement, c'était plutôt orienté à cycle 2, cycle 3. La maternelle, c'est venu par la suite, de mémoire, hein. Je n'ai pas l'historique complet.
Ouais.
Il faudra que je me refasse tout l'historique. C'était d'abord oui, du calcul mental, un peu de conjugaison. J'ai commencé à faire des petits jeux type Memory. La maternelle, je crois que c'est venu au moment où je suis revenu en maternelle, tout simplement.
Une des particularités de votre site, c'est qu'il comporte un très grand nombre de jeux. Vous nous direz combien. Est-ce que pour vous, apprendre, c'est jouer?
En maternelle, c'est la première modalité d'apprentissage, hein, c'est apprendre en jouant. Et c'est, comment dire, on peut pas proposer une feuille de calcul mental comme ça à des petits, c'est pas possible. Il va falloir un support, un minimum ludique. Et voilà, pour faire écho à ce que disait Benjamin Arsac, ouais, plus on a des niveaux. Petit cycle 1, cycle 2, plus il faut être imagé, plus oui, effectivement, c'est compliqué de construire des pages ludiques, intéressantes, attractives pour l'enfant, tout en ayant un contenu pédagogique derrière. Voilà. Et pour le nombre de jeux, alors j'ai reconstruit une base de données pour avoir un maximum de vues sur l'ensemble de mes exercices et de mes jeux. En tout, je suis à plus de 400, mais dans les plus 400, il y a aussi les exercices. Donc le nombre de
D'accord.
jeux, je ne pourrais pas dire exactement.
J'ai souligné ce point parce que en parcourant votre site et en l'utilisant parfois, j'ai pris conscience de l'énormité du travail qu'il y avait derrière et le nombre d'applications, de jeux est vraiment énorme. Donc je pensais que c'était important de souligner ça. Et 400, quand on
Et
parle de 400 jeux, on se rend compte de l'étendue
alors,
du travail.
et ça part de 2014, on est en 2021, donc même s'il y a une année ou deux où j'étais moins actif sur le site, c'est un travail de long terme finalement. Et voilà, il y a des vieux jeux que j'ai faits en 2014-2015 qui ont toujours du succès. Je suis un peu étonné parce que la mise en page est vraiment pas terrible. Je pense au jeu du pendu, un jeu tout
Ouais,
bête, hein, où j'avais fait un jeu aussi de mémoire musicale qui fait partie, je sais pas, du top 5 ou du top 10 des applications, enfin des pages où j'ai mes visiteurs. Alors, le jeu de la mémoire musicale, s'inspirer d'un vrai jeu. On a 4 zones. Et pour chaque niveau, on a d'abord une première note. Et enfin, c'est un jeu accumulatif. Et voilà, c'était vraiment un jeu basique. Et voilà, il fait partie du top 5 ou du top 10. Peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, je pourrais le remettre au goût du jour. Mais pareil pour le pendu, j'ai presque honte quand je vois d'autres pendus qui circulent sur Internet. Mais bon, le mien est quand même très, très basique. Mais bon.
Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que la plupart des jeux que vous proposez sont utilisables, par exemple, dans les ENT ou encore pour construire des parcours dans un Geniali, des choses comme ça. Est-ce que vous avez délibérément voulu permettre cette réutilisation ou pas?
Non, mais c'est tant mieux. C'était pas forcément voulu de ma part. Après, ce que je trouve important, c'est de pouvoir donner ce pouvoir, cette forme de liberté aux enseignants. J'essaye au maximum, par exemple, enfin, au maximum, quand je peux, de pouvoir. Je fais ce programme qui est disponible sur mon site, et quand il a vraiment un succès particulier, j'essaye de le rendre disponible hors ligne. Voilà, qui soit à disposition des enseignants. Je pense déjà aux enseignants qui n'ont pas accès à Internet dans les classes ou pour qui l'accès est capricieux.
Oui, ce qui est encore beaucoup le cas en maternelle, on peut le dire.
Oui, moi je compte pas sur Internet. Quand j'utilise Internet en classe, c'est avec mon téléphone hein, pour être sûr que ça fonctionne. Donc, ouais, c'est pas forcément pensé, mais cette idée me plaît qu'on puisse réutiliser ce travail dans des Geniali ou dans des parcours d'apprentissage. Ça me plaît.
On parle régulièrement de l'affluence lorsqu'on évoque les compétences en lecture. Vous proposez des jeux de fluence nombre. Quelles sont les
Oui,
plus-values
tout
de
à
ces
fait.
exercices de fluence nombre pour vous?
Alors, déjà, il y a un petit historique par rapport à ça. C'est au sein de ma circonscription, mon inspectrice et l'ancienne inspectrice maternelle. Nous avait réunis pour accompagner des écoles et à un moment, elles avaient évoqué justement cette fluence sur les nombres, comme quoi c'était une compétence importante pour développer les mathématiques et ça m'avait travaillé. Et en parallèle, j'avais découvert les Nooms de Brissio, je ne sais pas si vous connaissez. Et justement, les Nooms travaillent aussi cette fluence. Donc les Nooms, normalement, c'était pour des CP. Moi, j'avais des grandes sections. J'avais quand même, je me suis. Lors de l'année d'expérimentation, j'ai pu tester au moins les premières séances et je me suis amusé entre guillemets à. En fait, j'ai fait le contraire de ce que je fais d'habitude. D'habitude, on fait des activités classiques puis on les transforme en numérique. Là, j'ai fait le contraire. Je suis parti des activités numériques des Nooms pour en faire des activités matérielles pour mes élèves. Et c'était avant le Covid, c'était en 2019, je m'en souviens très bien. Pour moi, c'était assez créatif dans ma tête, donc c'était assez chouette et de pouvoir partager ça et de voir aussi mes élèves étaient fans, hein, que ce soit les Nooms sur tablette ou en matériel de manipulation ou d'observation. J'ai trouvé ça très, très, très chouette pour tout le monde.
Prof, etc.
Vous proposez également une multitude d'activités autour des bouliers, en permettant ainsi aux élèves, grâce au numérique, de manipuler. Le numérique est-il, selon vous, indispensable si l'on veut pouvoir parler d'école inclusive?
Bonne question. Ça, je ne sais pas. J'ai une autre parenthèse par rapport au boulier. C'est Laurence Lecorf qui est très, très active sur Twitter, qui est à l'origine de la méthode MHM en maternelle en collaboration avec Nicolas Pinel. Et c'est elle, tout simplement, qui m'avait proposé de faire un boulier en lien avec MHM maternelle. Et moi, une fois que j'avais fait ce boulier, finalement, je l'ai développé. Je me suis dit, une fois qu'on a fait un boulier pour la maternelle, on pourrait très bien le prolonger pour des niveaux élémentaires, voire collège. C'est un petit peu ce que j'évoquais quand j'étais dans mon établissement. On part d'un même thème et finalement, on donne différents niveaux de difficultés. Donc, je me suis un petit peu amusé avec ces bouliers à les développer pour différents niveaux. Et par rapport à l'école inclusive, c'est vrai que j'en viens en plus, mais je n'avais pas pensé les choses sous cet aspect.
Votre site est mis en lumière très souvent par les formateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur les statistiques de fréquentation?
Oui, alors comme on pose souvent la question, du coup, je me suis permis de tout noter depuis les débuts. Alors en 2014, mon site avait un autre nom, c'est en 2015 où j'ai transformé mon site, je l'ai mis chez OVH et j'ai vraiment appelé Classe de Florent. On est parti de 2000, puis 14 000, puis 25 000. 2018, on est à 47 000. Ça monte encore en 2019 à 72 000. Alors, quand je dis 72 000, c'est des visiteurs par an.
C'est pas le taux, c'est pas un des chiffres cumulés depuis la naissance du site, c'est des chiffres
Non,
par
c'est pas
année,
que,
d'accord.
non, je cumule même pas.
Ouais,
Là, c'était par année.
d'accord, ok.
Donc, 72 000 en 2019, ça fait à peu près 200 par jour.
Ouais.
Et donc, il y a eu le boom du confinement où de 72 000, on passe à presque 500 000. Voilà, ça fait une moyenne à 1 300 par jour et il y a eu un pic à 14 000. Alors, je sais plus, c'était en mars ou en avril. Ou voilà, le site a quand même tenu le coup. Voilà. Et bon, le confinement s'est calmé, heureusement, tant mieux pour tout le monde. Et là, je suis à 250 000 pour 2021. Et ce que je trouve amusant aussi, entre guillemets, c'est que j'ai beaucoup de monde qui vient du Canada. Et j'ai remarqué en 2019, j'ai même une majorité de Canadiens par rapport aux Français. Voilà. Là, par exemple, pour cette année, j'ai à peu près 25% de Canadiens. Donc voilà, j'ai même été interviewé il y a à peu près un an par des pédagogues alors pas du Québec, hein, mais on parle français aussi dans d'autres provinces du Canada, donc
Ouais.
j'ai trouvé ça amusant et voilà.
Autre point à souligner, votre site est gratuit et sans publicité. Comment financez-vous ce projet?
Ah ben, je l'ai financé par moi-même. Tous les ans, je paye une cinquantaine d'euros. Alors, je paye toujours une cinquantaine d'euros à OVH. Alors, je précise juste pour la publicité, depuis 2020, parfois, je fais des partenariats
Ouais.
où, en gros, je suis payé pour faire un article qui dure 3 mois. Par contre, je le mets toujours en évidence que c'est un partenariat,
D'accord.
pour être parfaitement honnête avec tout le monde. Donc, il y a eu d'abord ce partenariat. J'avais fait aussi une cagnotte Litchi qui est toujours en cours.
Oui.
Les gens étaient particulièrement généreux sur le premier confinement.
Oui.
Et puis, il y a le soutien de l'association AFTRN, c'est l'association des formateurs du numérique
Oui.
depuis là.
Comme Benjamin Arsac, hein, c'est pareil.
Exactement. Et donc oui, je les remercie parce qu'ils ont financé, par exemple, concrètement, une année d'hébergement de mon site. Ils m'ont financé un micro pour, comme je propose des choses pour les maternelles et les CP-CE1, qui sont pas forcément à l'aise en lecture, enfin rien que les maternelles,
Ouais.
il y a beaucoup d'audio sur mon site et avec un micro de bonne qualité, le son est meilleur et la qualité de l'application est bien sûr meilleure. Donc merci beaucoup.
Ouais. On peut souligner la qualité des enregistrements, hein. C'est très vraiment très professionnel et mais
Merci, puis merci à eux et
ouais.
Christian Straka qui est le président toujours, je crois,
Oui,
de cette
toujours.
association.
Ouais.
Voilà.
Non, faut vraiment les saluer parce que en plus, comme le soulignent souvent les gens qui sont concernés par les aides qu'ils apportent, ça se fait vraiment de manière très fluide et sans lourdeur administrative. Et ça, c'est
Tout
vraiment
à fait.
quelque chose
Tout à fait.
auquel on n'est pas forcément habitué, malheureusement. Donc,
Oui, ça surprend. Oui. En fait, en gros, on donne une facture. Alors, il faut bien sûr un accord de principe. Voilà, j'ai acheté un micro, je donne la facture, et
bien
puis c'est
sûr,
assez
ouais.
rapide par la suite. Et ça aussi, ça soulage, hein, finalement. Hein.
De quelle manière utilisez-vous votre site? Est-ce exclusivement une utilisation en classe ou y a-t-il également des prolongements dans les familles à la maison?
En classe, j'ai commencé à l'utiliser surtout avec des tablettes. J'ai la chance d'avoir des tablettes. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, bah, j'utilisais une connexion Internet avec mon téléphone. Par contre, il fallait configurer les tablettes pour qu'ils n'aillent pas sur d'autres sites. Donc, il y a tout un système de listes blanches, listes noires. En fin d'année, je pouvais ramener un ordinateur et on jouait au jeu de la bibotte. Bien sûr, on avait joué pour de vrai à la bibotte ou son équivalent Jacques la souris robot. Et voilà, un de mes top jeux que j'ai fait sur mon site, c'était l'adaptation numérique de la bibotte et Babybot pour plus simple pour la maternelle. Et voilà, en fin d'année, ouais, il y a quelques années, on pouvait utiliser l'ordinateur pour faire bouger la bibotte. Après, il y a eu la période Covid, hein, forcément, où j'ai créé une page spécifique pour la continuité maternelle, en fait pour la grande section, qui était d'abord pour mes élèves, mais finalement qui a été beaucoup utilisée par d'autres personnes. Mais c'est pas que c'était le but, mais voilà, comme je partageais, donc si ça servait à d'autres personnes, tant mieux. Donc il y a eu ce prolongement forcément pendant en 2020 et en petite partie l'an dernier, même si c'était très très court. Et alors, ça me fait penser à autre chose, c'est il y a des parents d'élèves qui ont découvert ça. Et voilà, là où j'exerce, il y a des familles qui sont allophones, qui apprennent le français. Et lorsque je lisais des histoires pour la compréhension courte, et finalement, il y a un papa qui m'a expliqué que sa femme utilisait mon site pour apprendre le français, tout simplement, ou pour apprendre le nom des lettres. Donc, je trouve ça touchant
Ouais, bien sûr.
d'avoir ce retour en direct, en plus d'un papa qui me raconte ça. Donc voilà, il y a cette utilisation. Et puis, depuis quand? Depuis le début de l'année 2021, je me suis rendu compte que finalement, faire des applications spécifiques Android, c'était bien. Donc, je m'y suis vraiment penché en février, pendant les vacances de février. Pour la petite histoire, c'est une enseignante en maternelle dans un département voisin qui m'expliquait, bon, la bibotte, c'est très bien, c'est hors ligne, tout ce qu'on veut, mais sur ma tablette, ça fonctionne pas. Parce qu'il fallait télécharger, il fallait l'utiliser d'une certaine manière. Donc, je me suis intéressé à comment fabriquer des applications Android. J'ai pris le temps qu'il fallait. J'y suis finalement arrivé. Donc, j'ai sorti la première application Bebot pour Android. Et voilà, j'en ai sorti deux autres. Le monstre à compter. Et puis là, tout récemment, une fabrique de phrases. C'était hier, finalement. Et finalement, je trouve ça plus simple dans mon utilisation en classe. C'est-à-dire, concrètement, j'ai déjà un groupe d'élèves, j'ai cinq élèves. Alors, ces cinq élèves, pendant 15 minutes, ils vont faire le monstre à compter, par exemple, ou bientôt la fabrique de phrases. Et j'ai programmé de telle manière ce qu'il y a un retour sur ce qu'ils ont fait. Pour la fabrique de phrases, si, je sais pas, ils vont fabriquer six phrases, et la tablette va mémoriser les six phrases qu'ils ont fabriquées. Alors, mémoriser le temps de l'application. Dès que l'application est fermée, tout s'efface, hein. Par rapport au RGPD, je
Bien
sais qu'on est
sûr,
très attentif là-dessus, donc là, il n'y a aucun souci pour le RGPD. Donc voilà, depuis quelques mois, je m'intéresse à tout ce que je peux transformer en tout, pardon, tout ce que je peux transformer en application Android pour que ça soit plus simple, déjà pour mon utilisation en classe. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont la chance d'avoir des TNI ou des VPI. Alors, c'est pas mon cas là en maternelle. C'était mon cas quand j'étais dans mon établissement spécialisé il y a quelques années. Donc, c'était super chouette. Mais j'ai pas cette chance. Mais je sais que certains enseignants en maternelle ou cycle 2, peuvent utiliser mes applications avec, par exemple, un vidéoprojecteur, un temps d'un regroupement. On fait, par exemple, l'affluence sur les nombres ou le monstre à compter. Il y a cette utilisation par d'autres collègues en classe.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison, Florent?
Je vais être un peu vague. Déjà, c'est rare, c'est trop rare. Le souvenir d'avoir ri aux larmes, c'était avec mes enfants quand ils regardaient une série Netflix familiale. Mais je ne saurais même plus quel est le nom de la série, quelle était la situation. Mais voilà, on va dire que c'est trop rare et voilà.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel?
Ce qui revient le plus régulièrement, ça peut être quand je me retrouve au calme, que ce soit quand je me lève, si je me réveille très tôt le matin ou si j'ai la forme de rester éveillé le soir, où je peux réfléchir tranquillement à mes projets. Mais ça peut être aussi quand on se retrouve en famille, non pas pour manger forcément, mais pour... En ce moment, on est très jeux de société, donc c'est un moment en famille qui est chouette. Il n'y a pas de moment précis, parfois... Le week-end, ça peut être le temps du midi, de l'après-midi, ou ça peut être le soir. Ouais, c'est des moments chouettes.
Prof, etc.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous?
Ce qui fait le plus de sens, je dirais la créativité. J'aime beaucoup créer, que ça soit, bah, on en a beaucoup parlé sur des applications, mais voilà, quand j'étais adolescent, quand je faisais beaucoup de musique, j'adorais aussi créer des morceaux de musique. J'ai un petit peu réactivé cet aspect-là quand je suis un peu perdu dans les années. Au premier confinement, j'avais collaboré avec Sophie Gazelle, qui alias Petite Graine. On avait créé le personnage de Joséphine. Donc elle avait apporté tous les dessins. Et moi, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de refaire un peu de musique, de faire de la créa. Mais voilà, c'est finalement le seul moment. Mais c'est un moment à la fois intense et j'ai beaucoup aimé ces soirées à passer à créer de la musique, que ce soit sur mon piano ou j'ai appris sur mon iPad à utiliser, alors je sais pas comment on prononce, GarageBand. J'ai découvert ça et voilà, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir créer des univers sonores par rapport au dessin de la collègue. Une autre valeur, en plus de la créativité, je dirais l'autonomie, la prise d'autonomie, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent ou même chez les adultes, puisque je m'occupe de stagiaires. Pour moi, un des questionnements récurrents, c'est comment donner le pouvoir à celui qui est en face de moi, que ce soit en classe ou ce que j'évoquais sur mon site, je propose une application, d'accord, mais parfois, je me demande comment bah, donner le pouvoir à celui qui est derrière l'ordinateur. Je pense par exemple quand j'ai créé les Bebots, quand j'ai créé l'application Bebot sur mon site, bon, c'est bien beau de proposer des niveaux, mais ce que je voulais aussi, c'était proposer un générateur de deux parcours. À l'époque, j'étais influencé. En fait, je suis assez influencé par Nintendo, Mario. Et à l'époque, il y avait un jeu qui s'appelle Mario Maker où on fabriquait nos propres niveaux de Mario. Et je me suis dit, bah, on va faire Bebot Maker, voilà. Et voilà, j'étais assez fier de pouvoir proposer ça aux internautes qui le voulaient, de pouvoir créer leur propre parcours. Voilà, j'ai cet exemple, mais j'essaye régulièrement de pouvoir donner que l'internaute puisse générer à partir d'une application que je donne, d'un site, d'une page web, bah, le pouvoir de pouvoir changer certaines variables. Voilà. Et si je retourne en classe pour l'autonomie, c'est par exemple donner les moyens à l'enfant de. Moi, ce que j'adore en grande section, c'est de les voir écrire des mots, alors que ce soit en copie ou en écriture approchée, en écriture tâtonnée. Qui puisse écrire, inventer des phrases. Bah, j'évoquais les fabriques de phrases. Voilà. Et il me semble que vraiment accéder à l'écrit à cet âge-là, la production de mots, de textes, c'est un geste important à accomplir pour leur donner de l'autonomie. Et voilà. Et puis c'est un vrai plaisir quand on les voit se lancer. Ils passent un temps important à copier des mots. On sent que c'est important pour eux qu'ils y prennent du plaisir. Et pour nous, bah, c'est chouette en tant qu'enseignant. C'est les petits bonheurs d'enseigner.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
Quelle compétence me rend fier? Je dirais, je vais être un peu plus général. En ce moment, c'est cette capacité à naviguer entre bah, l'univers enseignant et l'univers de la programmation, et j'irais même jusqu'au design. Quand je dis design, c'est la capacité à rendre accessible et lisible des informations bah, sur un écran, pour le coup. Voilà, c'est d'être à cheval sur ces trois univers, la pédagogie, la programmation et le design, et quelque part à pouvoir traduire en des souhaits pédagogiques dans un programme accessible pour un enfant, pour un adolescent. En ce moment, je suis assez, enfin, oui, je suis fier de ça.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui?
J'adore Muse, donc je dirais Matthew Bellamy, où bah, c'est un groupe vraiment très créatif, qui en plus qui dure hein, depuis 20 ans, qui sait faire des morceaux autant pour la radio ou des morceaux qui transportent. Alors, j'ai un anglais catastrophique, je vais pas citer de titre, mais il y a des tas d'albums de Muse qui ont des univers propres qui, bah, qui me transportent complètement. Et voilà, quand je programme, j'écoute souvent du Muse. Il y a des écrivains, parfois, je ne sais plus quel écrivain dit, bah voilà, pour écrire ce livre, j'écoutais telle musique. Moi, je pourrais dire la même chose. Quand j'ai programmé ça, finalement, j'écoutais ça. Voilà, donc pour tout l'aspect créatif de ce groupe, oui, quelques heures dans la peau de Matthew Bellamy, ouais, pour être dans l'univers créatif, ce serait chouette.
C'est vrai que la musique a cette capacité de d'imprimer, de fixer des souvenirs parfois.
C'est vrai, quand j'écoute un morceau de musique, je me dis, ah ouais, ça c'est tel souvenir, telle année, effectivement.
Comment définissez-vous le succès?
Alors, je vais être concret, hein, c'est le fait de pouvoir être repris par d'autres personnes et des personnes qui ont une certaine écoute. Là, par exemple, je parle concrètement de le Café Pédagogique qui reprend régulièrement. Certaines de mes publications, certaines de mes applications, où à chaque fois, bah, j'en suis très très fier. C'est Stanislas Dehaene pendant le confinement qui, tout d'un coup, a parlé de mon site sur Twitter. Puis j'ai appris après coup qu'il avait évoqué mon site sur France Inter. Donc là, c'était waouh. Voilà, des personnes qui peuvent être opposées hein, à Stanislas Dehaene, le Café Pédagogique, mais voilà, qui parlent de mon travail et je suis fier.
Bien sûr.
Voilà.
Vous associez finalement le succès à une certaine forme de reconnaissance.
Voilà, oui, c'est ça.
Malheureusement, on est déjà à la fin de cet entretien, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années?
Je viens de me marier et on aimerait bien partir en famille, loin au soleil, type les Seychelles ou quelque chose comme ça. Voilà. Et plus d'un point de vue plus professionnel, ça serait pouvoir signer un partenariat ou un contrat avec une maison d'édition. Sans rentrer dans les détails, on se tourne autour pour l'instant. Donc j'aimerais bien que ça se concrétise avec quelqu'un. Voilà. C'est pouvoir assister à nouveau à un concert de Muse. J'avais assisté en 2019 au Stade de France et c'était une surprise pour moi. C'était un très beau cadeau qu'on m'avait fait, un cadeau surprise et si on peut recommencer, bah c'est chouette. Voilà, peut-être trouver du temps pour me remettre au piano, mais je crois qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et voilà, il faut faire des choix.
J'espère que tous ces souhaits se réaliseront. Il me reste à vous remercier, Florent, d'avoir accepté mon invitation.
Bah, merci à vous.
Je mettrai le lien vers votre site classedeflorent.fr en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée, Deezer, Spotify ou Apple Podcast par exemple. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pourrez également laisser un commentaire. Si vous avez envie de partager vous aussi votre côté, etc. avec les poditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi!